Bonsoir. Le président Joseph Kabila demande des sanctions à l'endroit des États qui violent la souveraineté des autres États. Il a dit hier dans son discours à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis. Et Joseph Kabila a aussi ajouté que la paix dans la région dépend notamment de la mise en œuvre par les autres signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba des engagements qui leur incombent. Quelle analyse faire du discours du chef de l'État? C'est le débat de ce soir. Nous recevons comme invité pour ce débat professeur Chibangu Kalala, professeur de droit public à l'Université de Kinshasa, et président du parti politique Notre Beau Pays, un parti proche de la majorité présidentielle. Professeur Chibangu, bonsoir.
Bonsoir.
Honorable Jean-Marie Bamporiki, député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC. Honorable Bamporiki, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Professeur Bouendwa Elugaïsi, recteur de l'université libre Jules Nyerere, au sud de Bukavu, sud Kivu. Il est aussi directeur du centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur Bouendwa, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le président Joseph Kabila demande des sanctions à l'endroit des États qui violent la souveraineté des autres États. Le président de la République démocratique du Congo l'a déclaré hier à la tribune de la 68e Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis. Joseph Kabila salue par ailleurs l'implication du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon pour la recherche de la paix à travers le monde et en particulier en RDC. Le discours du président de la République a été retransmis sur la télévision nationale. En voici un extrait.
L'avènement d'une paix durable dans la région dépend de deux conditions majeures. La fin de l'impunité sous toutes ses formes, d'une part, et d'autre part, la mise en œuvre diligente. Les autres signataires de l'accord cadre, les engagements qui leur incombent au terme du dit accord. Aussi, une fois de plus, mon pays lance-t-il un appel pressant à notre organisation de traiter tous les États membres avec la même rigueur et d'exiger de chacun le strict respect des principes de la Charte des Nations Unies. Dénoncer la violation de ce principe est certes une bonne chose, mais sanctionner ceux qui le violent est de loin meilleur, surtout quand la violation est établie, persistante et répétitive.
Voilà, c'était le président Joseph Kabila à la tribune des Nations Unies hier. Professeur Chibangu Kalala, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Kinshasa. Vous êtes également président du parti politique Notre Beau Pays, un parti proche de la majorité présidentielle. Professeur, comment vous avez accueilli ce discours du président de la République?
Merci Alain Irung pour l'invitation. Je salue le honorable Jean-Marie Bamporiki et le professeur Bouindwa avec qui je vais animer cette émission ce soir. Mais la question qui me posait de savoir comment j'ai écrit ce discours du président de la République, mais c'est un beau discours.
Un beau discours.
Un beau discours. Surtout le dernier, le partage que vous avez fait passer sur les antennes de Radio Okapi, parce qu'il faut souligner que le président a touché du doigt un problème dont on ne parle pas beaucoup. À savoir que toutes les difficultés que nous avons avec notre pays, c'est parce que notre peuple a été généreux. En 1994, le maréchal Mobutu avait accepté d'accueillir des réfugiés rwandais, plus d'un million, pratiquement dans l'espace de quelques jours. Il avait refusé. Mais la communauté internationale a fait pression pour lui dire, ben, maréchal, il faut accepter, vous savez, ces gens sont en détresse, ils sont menacés chez eux, accepter qu'ils viennent. Et depuis qu'ils sont arrivés, eh bien, les problèmes ont commencé jusqu'aujourd'hui. À tel point qu'au Rwanda, il y a la paix, la sécurité, la stabilité, et ici chez nous, nous avons des problèmes depuis 1994 et on n'a pas réglé ce problème. Et donc, le président a bien fait d'essayer ce point-là.
Et c'était une question tabou jusqu'à
un moment. Oui, on n'en parlait pas beaucoup, à tel point que nous étions devenus finalement des coupables, hein, parce que nous avons accueilli des réfugiés rwandais. Mais le président a mis le point sur les i en rappelant cette vérité historique et en montrant que la communauté internationale assume une grande responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui dans notre pays. Et bien entendu, la communauté internationale a compris son rôle et sa responsabilité. On est à une étape très avancée aujourd'hui avec la brigade internationale d'état d'intervention qui est sur le terrain, qui va nous aider à régler ce problème d'insécurité. Ça, c'est très bien. Mais un autre aspect, c'est quand le président de la République rappelle des choses simples. Le rappel à la communauté internationale de pouvoir assumer ses responsabilités. Vous savez, au mois de décembre, c'était le 14 décembre 1974, ça ferait bientôt presque 40 ans, la même Assemblée générale des Nations Unies, devant laquelle le président a fait discours, a défini ce qu'on appelle par agression. Après plusieurs décennies de discussions pour savoir qu'est-ce que c'est que l'agression, etc., finalement on s'est mis d'accord au mois de décembre 1974 par l'Assemblée générale. Qui a dit qu'il y a agression, entre autres, il y a plusieurs faits qui constituent l'agression, mais entre autres, mais ces faits, il y a le fait pour un État, et ça c'est très important, pour un État d'envoyer en son nom des bandes armées, des groupes armés, eh bien, qui se livrent à des actes de violence, de force, contre un autre État. Et là, notre pays est victime des actes de violence commis sur notre territoire par des groupes armés, par des forces irrégulières, entretenues, équipées, entraînées, financées par des pays voisins. Et donc, il y a acte d'agression. Et lorsque on se trouve devant ce type de situation, une agression armée, la communauté internationale ne peut pas se limiter seulement à faire des condamnations de principe. Oui, nous condamnons. Non, il faut aller plus loin, comme le président l'a dit. Il faut prendre des sanctions très sévères, exemplaires, contre des pays, des États qui vont déstabiliser les autres, qui vont entretenir des bandes armées sur le territoire d'autres pays. Il faut sanctionner ces pays-là. Et nous sommes dans cette situation aujourd'hui où il y a des pays qui nous déstabilisent et il ne suffit pas tellement de les condamner, mais il faut passer à la vitesse supérieure, prendre des sanctions sévères, exemplaires contre ces pays-là. Et le président a très bien fait d'avoir rappelé ces principes de base de droit international.
Professeur, quand on lit attentivement le discours du président de la République, et nous avons d'ailleurs tous ici au studio sous les yeux, on a l'impression que le président est dans une position très embarrassée ou très embarrassante dans la manière où il doit en même temps parler de l'agression à laquelle vous faites allusion, en même temps il doit évoquer les pourparlers de Kampala, en même temps il doit évoquer la question de la CIRGL. On a l'impression qu'il souffle un peu le feu et le foie qu'il lance sur un fil.
Non, mais le président de la République, c'est un chef d'État. Il ne peut pas s'exprimer comme le ferait un militant des droits de l'homme. Les hommes d'État ont un vocabulaire, ils ont un style. Surtout devant une instance internationale prestigieuse comme l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc on comprend. Il ne peut pas, par exemple, citer les pays concernés. Mais en décrivant la situation, comme il l'a fait dans ce discours, en creux, on comprend qu'il parle de son pays, qu'il parle de certains pays, qu'il n'a pas cité nommément, qui sont en train de faire du n'importe quoi, qui violent le droit international de manière unie. Il a dit qu'il faut cesser l'impunité et qu'il faut que ces pays, peut-être qu'on reviendra là-dessus pour cette émission, que les pays qui ont signé l'accord d'Addis Abeba, parce que la RDC, a accompli sa part de ses engagements. Et il faut que les autres pays se comportent dignement, respectent leur propre signature dans le cadre des accords d'Addis Abeba pour qu'il y ait la paix et la sécurité. On comprend à qui il fait allusion, mais il ne peut pas le dire ouvertement. Il doit adopter un style diplomatique, il doit être sur la réserve.
Merci professeur. Honorable Jean-Marie Bamporiki, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC. Comment vous analysez le discours du président de la République? Vous avez suivi le professeur Chibangu souligner le fait que le président de la République a mis le doigt sur la plaie en touchant cette question taboue de réfugiés rwandais que la RDC avait accueilli en son temps.
Merci beaucoup Alain. Bonjour pour ce second.
Merci.
Je vais commencer par rappeler que le projet Tsubangu, dont j'apprécie beaucoup l'intelligence en matière de droit, a commencé par dire qu'il s'agit d'un beau discours. Un beau discours. Moi, je dirais que c'est un discours de plus. Et je le dis parce que je me dis, ce n'est pas par des discours qu'on peut sortir le pays des difficultés où il est. Nous nous plaignons d'être agressés par le Rwanda, parce que le Rwanda est à la poursuite des réfugiés qui sont venus s'installer sur notre territoire. Mais le Rwanda, c'est un pays pauvre. Le Rwanda a quel moyen pour engager réellement une guerre contre la RDC? Le Rwanda, nous savons qu'il est soutenu par des puissances internationales, par des multinationales. Et tout cela pourquoi? Tout cela parce que en RDC, il n'y a pas d'État, c'est ça la réalité, Alain. L'État ne peut pas se rabattre sur l'international pour se défendre, pour défendre sa souveraineté. Le chef de l'État en place, il est là depuis plus de 10 ans, 12 ans même précisément, ça fait 3 mandats aux États-Unis. Comment peut-on justifier que nous ne puissions pas avoir d'armée digne de ce nom? Je vous dis que chaque année, l'armée, les dépenses de l'armée sont parmi les plus élevées du budget de l'État. Et elles sont prioritaires. Mais elles vont où? Elles le font quoi? Parce que sur le terrain, l'armée accuse des difficultés insupportables. Alors donc, je peux dire que, moi je me dis, avant de s'adresser à la communauté internationale, il faut faire une introspection, voir ce que l'on devait faire qu'on ne fait pas, et se rendre compte qu'effectivement, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Le pays n'est pas géré. La manière de gouverner un État, elle est classique. Elle est connue. C'est la même manière, de la même manière qu'on gouverne les États-Unis, qu'on gouverne la France, qu'on gouverne la Belgique. C'est de cette même manière qu'on devait gouverner la RDC. C'est quoi gouverner? Nous avons des institutions, vous avez suivi aux accords d'Addis Abeba. On a fustigé la faiblesse des institutions en RDC. Et on a voulu expliquer que la cause de toutes nos misères, c'est effectivement la faiblesse des institutions du pays. Et je dois vous dire que nous avons une inversion des rapports ou des valeurs dans les institutions. Nous avons l'exécutif qui dirige le législatif. Vous savez que normalement, l'exécutif doit gouverner sur base des autorisations du législatif. Mais ici, nous avons un gouvernement qui se permet de faire des dépenses non budgétisées et qui est là, qui vient faire adopter un programme à l'Assemblée nationale, mais qui ne l'applique pas, qui soumet des budgets au Parlement, mais qui ne s'y réfère pas pour gérer le pays. Alors nous allons nous plaindre de voir que on peut nous agresser, mais c'est parce que nous n'avons pas d'État.
Alors, honorable, de plus que pour vous, c'est un discours de plus. Qu'est-ce qui devrait être, d'après vous, le contenu de ce speech du président à la tribune des Nations Unies? Quel devrait en être le contenu?
Moi, je crois qu'il fallait avoir le courage de présenter le bilan, de démontrer que nous sommes un espace sans État. Et là alors, de reconnaître que nous n'avons rien fait pour qu'advienne un État ici. Pour ça, ce ne sont pas les moyens qui nous manquent. Nous avons beaucoup de moyens en termes de ressources naturelles que nous laissons piller au jour le jour, au vu et au su de tout le monde. Vous savez, ce n'est pas un secret pour personne, surtout pas dans les milieux internationaux. Tout le monde sait qu'ici, c'est la passoire. Tout le monde vient pour priser et partir. Alors, nous-mêmes qui sommes là, qu'est-ce que nous faisons de notre part?
Nous allons prendre pour vous, honorable Bampori, qui cette réaction qui nous vient de Mbandaka, l'Équateur.
Willy Eloi Ambandaka, dans la province de l'Équateur. Pour cette fois, le président a à haute voix dénoncé de vrais auteurs de ces conflits. Cette dénonciation oblige la Cour internationale de justice, l'organe de l'ONU, tranchant les différends entre les États membres, de se saisir de l'affaire et ainsi de mettre le Rwanda et l'Ouganda devant la barre pour qu'ils répondent de leurs actes odieux et primitifs.
N'était-il pas important, comme a dit le professeur Kibangu, de mettre la communauté internationale devant ses responsabilités, honorablement pour lui?
Mais mettons-nous d'abord nous-mêmes devant nos responsabilités. Qu'est-ce que nous faisons de notre pays, mon frère? C'est comme si vous ne vivez pas dans ce pays. Qu'est-ce que nous faisons de notre pays? Quoi? Nous sanctionnons qui? On détourne les deniers publics tous les jours, au vieux c'est tout le monde. On détourne même les armes, hein, on les envoie au niveau des ennemis, on les vient.
Et donc l'inclusion devrait commencer ici même au pays.
Absolument. Il faut que l'on commence par être sérieux pour qu'on espère que l'international nous considère comme sérieux.
Professeur Bouindoua, bonsoir, vous venez de faire votre entrée dans ce studio, une fois encore bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes recteur de l'Université Libre Julio Seigneur-Héré de Bukavu Sud Kivu. Vous êtes également directeur du Centre de Recherche et d'Études sur l'Afrique Orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur, comment vous analysez le discours du président de la République?
Oh, d'abord, je vais d'abord saluer mon aîné, le professeur Kalala Kibangu. Et d'ailleurs, entre-temps, je vais quand même saluer mon autre aîné qui m'a donné cours à l'université, l'autre Kalala Kibangu. Et je salue aussi Bampori qui t'aimera juste. Bampori qui. Bon, moi, quand j'analyse le discours du chef de l'État, je suis un peu perplexe, quelque peu. Je vais dire qu'au niveau du fond et de la forme, et au niveau du manque d'engagement idéologique, on voit se trahir beaucoup de choses en ce qui concerne le chef de l'État. D'abord, au niveau de la forme, d'abord, j'aurais bien voulu que le président cesse de parler à la conférence des Nations Unies en utilisant une langue comme le français. Il aurait pu parler en un bon sens parce que c'est la langue qu'il maîtrise le plus et ça nous donnerait un contenu idéologique et culturel qui nous permettrait de défendre notre pays autrement que par le biais d'une autre langue. Au niveau du fond, c'est vraiment tout le problème que nous avons à l'égard du Rwanda. Le président de la République a bien raison d'aller devant cette tribune parler du Rwanda sans pratiquement le nommer ou sans le regarder, le lendemain aller à Kampala. Mais j'ai comme l'impression que nous manquons, comment dirais-je, de muscles. Nous devons montrer notre force pour ne pas avoir à s'en servir. Et si davantage on pouvait tout simplement dire que le Rwanda nous agresse, nous l'agressons directement, nous préparons une vraie guerre. Je ne sais pas pourquoi on peut admettre que nos militaires soient exfiltrés, que nos agents soient déshonorés, parce que moi je reviens tout droit de Goma, je peux vous assurer que parfois c'est une humiliation qui dépasse les limites. Je pense que nous n'aurions pas dû beaucoup négocier avec nos voisins, parce que nous sommes quand même un grand pays, un grand peuple, mais si personne n'a peur de nous, cela fait bien triste.
Et donc, qu'on pourrait comprendre par ces propos, professeur, comme le pensent certains analystes, que le président de la République aurait une fois de plus raté l'occasion de mieux présenter la RDC.
Je pense que ce n'est pas qu'il l'ait raté le coche, comme on dit, mais je pense que vraiment, il aurait pu taper du poing sur la table, dire il y en a marre, et puis bon, advienne que pourra, et puis je pense qu'il y a aussi moyen de montrer à nos amis rwandais que on ne peut pas tout le temps se mettre à être victime de leur roublardise et de leur double langage, de leur vraiment manque de sincérité, d'honnêteté. Je sais très bien que ce sont des intérêts des États, mais bon, c'est ainsi, je pense.
Professeur, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani en province orientale. Voilà, nous allons y revenir le temps que la réalisation essaie de nous préparer cet élément. Professeur, n'êtes-vous pas là en train de vous mettre dans une posture de va-t-en-guerre, une posture que le monde moderne aurait déjà dépassé, professeur?
Non, c'est la théorie de la patrie en danger. Dans des circonstances comme celle-ci, ce n'est pas une question de savoir si on est va-t-en-guerre ou pas. On défend la République, la patrie et les idéaux auxquels on croit. Et pour cela, moi, je pense que nous n'avons pas vraiment à accepter cette humiliation. Moi, je vous assure que j'habite à quelques mètres du Rwanda. Je reviens de Goma, là, ce matin, j'étais à Goma. Je peux vous assurer que parfois, on préparait un autre génocide qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Parce que tout simplement, on sent, sourdre dans la population des revendications. Vous savez, aux environs de Goma, les gens vraiment aimeraient bien en découdre une bonne fois pour toutes. Et puis bon, je pense que c'est le manque de courage peut-être politique, le manque d'engagement qui nous met dans une situation telle que nous paraissons comme si nous n'étions pas décidés à défendre notre patrie.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de l'honorable Bamporé qui pense qu'il faudrait plutôt commencer par un diagnostic sérieux en interne avant d'enlever la poutre dans l'œil de la communauté internationale?
Honorable Bamporé qui n'a pas tort d'avoir raison, mais je pense là aussi que le diagnostic à l'infini, ad vitam aeternam, on revient sur les mêmes choses, les diagnostics. Bon, ok, on peut y arriver, mais je pense que le plus important actuellement, c'est vraiment avoir les yeux en face du trou, et bon, ne pas proclamer sa tigritude comme l'autre disait, et vraiment foncer sur la proie, et puis d'une manière ou d'une autre, on essaie de voir comment régler la question, parce que je dis toujours que le Rwanda est coincé entre ses voisins et ses cousins, notre voisin tanzanien de l'autre côté, et nous-mêmes de ce côté-ci. Si le Rwanda continue son jeu, et je vous assure que moi j'ai entendu le discours du président Kikwete, lui il disait en un swahili que si l'agresseur vient avec une tête pleine de cheveux, il rentrera chauve. Akidja Nanuele Atarudi et Kipar. Et ça veut dire vraiment que nos amis tanzaniens, ils sont entrés dans le jeu, ils veulent en découdre, mais c'est nous qui paraissons un peu flasques, un peu mous, un peu... je pense que vraiment il faudrait quand même qu'on se ressaisisse.
Voilà, professeur Tibangu, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
De la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. La RDC doit s'organiser à l'interne tout en ayant une armée forte et dissuasive capable d'effectiver son territoire, lui permettant d'être respectée par d'autres pays, surtout ses voisins. Elle doit cesser de pleurnicher dans des sommets de la CIRGL, de l'Union africaine, voire de l'ONU, comme un petit enfant en devenant un État responsable, car il est souvent difficile d'écouter ou d'aider les peuples. Aide-toi et le chef de l'État, dit-on.
Voilà, professeur, réaction, il y a un manque d'engagement, nous allons plutôt pleurnicher là-bas au lieu de nous prendre en charge.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que l'auditeur vient de dire, et on a cessé de le répéter. Mais ce qu'il faut dire à l'air, donc nous sommes dans le discours du président de la République aux Nations Unies. À l'Assemblée Générale des Nations Unies, on ne va pas là-bas pour faire un discours sur l'État de la nation. Le discours sur l'État de la nation, le président dit que le pays ici devant le Congrès. Ce n'est pas devant les Nations Unies dans 10 ou 15 minutes qu'on va faire là-bas. Ça, c'est la première chose. J'entends qu'on dit qu'il fallait absolument qu'on fasse un diagnostic ici, mais on est en train de le faire aux concertations nationales. J'aurais souhaité que mon ami Bamporegui vienne au Conseil national pour qu'on fasse cet état des lieux, qu'on fasse justement ce diagnostic sévère et voir comment nous pouvons sortir notre pays des difficultés qu'il a aujourd'hui. Et je constate et je regrette son absence, il aurait pu être là pour qu'on fasse ce travail sur le pays. Maintenant, quant à savoir s'il faut constituer une armée, s'il faut attaquer le Rwanda, je pense qu'on ne peut pas faire des choses ou dire des choses comme si rien n'a été fait dans ce pays. Je pense que dès le départ, le président de la République avait dit que nous sommes devant trois schémas. Le schéma politique, le schéma diplomatique et le schéma militaire. Je constate que sur le schéma diplomatique, il y a des succès réels et qu'il faut accepter. Aujourd'hui, les pays qui nous ont agressés depuis des années, parce que j'ai entendu un auditeur qui faisait allusion à la Cour internationale de justice, eh bien, je peux dire à cet auditeur que notre pays a gagné une victoire judiciaire éclatante contre l'Ouganda en 2005. On a déjà condamné l'Ouganda à payer d'importantes sommes d'argent à la RDC pour agression, violation de territoire, pillage, etc. Donc ce travail a déjà été fait. Donc, on n'aura pas. Sur le plan diplomatique, le travail du gouvernement, du président de l'État a déjà porté ses fruits. Aujourd'hui, nous avons dans notre pays une armée internationale, une brigade d'intervention qui est là musclée avec une puissance de feu supérieure qui peut et qui va le faire. D'ailleurs, vous avez suivi, mais Robinson l'a répété aux Nations Unies hier ou ce matin pour dire que nous allons tout faire pour éradiquer complètement tous les groupes armés qui créent le désordre à l'est de la RDC. Donc ce travail se fait, on ne peut pas continuer à pleurnicher. Donc de ce côté-là, il y a des progrès réels et le président de la République a engagé une belle victoire. Mais on ne peut pas aller devant les Nations Unies avec tout ce succès diplomatique, avec tout le soutien que nous avons aujourd'hui des Nations Unies, il suffit de lire l'accord d'Addis Abeba, pour aller là-bas dire, bon écoutez, moi, président de la RDC, je condamne l'Ouganda, je demande qu'on fasse ceci, je suis prêt, je veux faire la guerre contre le Rwanda. Non, les chefs de l'État ne s'expriment pas de cette façon-là. Ça, nous pouvons le faire ici chez nous, dans nos partis politiques, les acteurs politiques. Mais un homme d'État, comme le président de la République, il a un vocabulaire, je l'ai dit, tout le monde a compris, ça lui dit clairement, qu'il a visé les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, pour ses actes. Il demande qu'on prenne des sanctions concrètes contre eux. Il l'a dit, mais en termes diplomatiques, en toute responsabilité. Voilà. Il ne peut pas s'exprimer comme moi je le ferai.
Alors, professeur, dans son discours, le président de la République a réaffirmé beaucoup de choses hein, qui sont en train d'être faites au pays. Par exemple, il dit, je cite, c'est dans cette optique que les actions concrètes qui après ont déjà été posées par le gouvernement congolais. Il fait allusion à la mise en place du mécanisme national de suivi de la mise en œuvre des engagements de la RDC, l'accélération et la systématisation de la réforme du secteur de sécurité, la décentralisation, la réforme de la gestion des finances publiques, la restructuration de la CENI, ainsi que la tenue des concertations nationales. Mais quand on examine dans le fond, on a l'impression que toutes ces choses ne se sont pas faites sans beaucoup de difficultés, professeur.
Mais rien n'est facile, allez-vous. Nous sommes un pays en voie de développement. Nous n'avons pas beaucoup de possibilités financières pour régler certaines choses. Ça s'est coulé, il faut être objectif. Et nous ne vivons pas dans un paradis, en RDC. Nous avons des problèmes, soyez. Mais la volonté et la détermination de bien faire est là. Et tout ce que vous venez d'énumérer, ça se fait. Mais il y a des choses qui vont produire des résultats dans la durée. Ce n'est pas au bout de 48 heures, de 2 semaines, 3 semaines, que tout ceci qu'on va voir tous les résultats. Ça va prendre du temps, mais le problème est que le processus est engagé, les réformes sont en cours, il y a la détermination, il y a la volonté, et surtout, qu'il y a une supervision internationale pour voir est-ce que la RDC respecte, oui ou non, ses engagements. Et ça sera respecté, mais il faut que les autres pays, comme le président l'a dit, respectent les leurs.
Honorable Bampouri, qui nous prenons cette partie, je crois que c'est la bonne, cette réaction qui nous vient de la province orientale.
Devant Moïse, depuis Fataki en province orientale, le chef de l'État a toujours demandé des sanctions contre les pays agresseurs de la RDC. Mais la communauté internationale fait la sourde oreille. Est-ce que la RDC, notre pays, ne peut pas agir directement sans entendre la voix de la communauté internationale?
Réaction honorable.
Il a tout à fait raison, c'est ce que j'ai dit. Nous ne devons pas aller pleurer devant la communauté internationale, nous devons nous prendre en charge. Et pour nous prendre en charge, nous devons gouverner le pays. Je ne dis pas améliorer la gouvernance parce qu'il n'y a pas de gouvernance du tout.
Mais le président de la République a quand même cité un certain nombre d'éléments que j'ai énumérés tout à l'heure qui sont en application par
vous
le gouvernement.
Les éléments, je vais vous en donner. Le professeur Thibang vient dire que nous n'avons pas de moyens. Monsieur Alain, nous avons beaucoup de moyens dans ce pays. Je vais vous donner deux petits exemples concrets. Michel Camdessus, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, un Français, il vient de dire dans une revue que entre 2008 et 2010, l'argent qui devait être payé au fisc congolais et qui est allé dans les îles Vierges s'évalue à 38,5 milliards de dollars américains. 38,5 milliards en deux ans. Faites la moyenne, nous avoisinons les 20 milliards par an, non, de recettes détournées. Alors que nous sommes en train de miser sur des recettes de 4 milliards de dollars que nous n'avons même pas réalisées. N'est-ce pas? Alors, on va se faire sur les moyens. Je donne un autre exemple. Le ministre Kinkié, il vient de le dire à la presse que le trafic de communications sur la RDC, par mois, s'évalue à 120 millions de minutes, les communications entrantes. Et sur ces 120 millions de minutes, 20 millions seulement sont déclarés à l'État. Vous voyez un peu le rapport entre ce que l'État devait avoir et ce que l'État a réellement. La cause, c'est quoi? C'est justement la faiblesse des institutions. Nous avons un Parlement qui est incapable de sanctionner le gouvernement. Les preuves, moi, je ne vais pas vous les donner. Vous les connaissez. Vous avez vu comment le Parlement a été ridiculisé devant le gouvernement à cause de la majorité qui est tiède. Et là, nous n'y pouvons rien. C'est à notre façon de faire notre démocratie. Mais les conséquences, il faut alors les accepter. Donc, nous ne devons pas aller pleurnicher devant les autres qui savent que nous sommes en train de faire de l'irresponsabilité dans la gestion de notre pays. Donc, c'est ça. Nous, on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes.
Mais le président de la République a quand même énuméré, la restructuration de la CENI, la tenue des concertations nationales en cours. Ne fallait-il pas commencer quelque part?
Si vous voulez qu'on parle des concertations, je suis d'accord. Vous savez très bien que nous n'y sommes pas. Nous, Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamerhe, nous ne sommes pas aux concertations nationales parce que nous les considérons comme un congrès de la majorité présidentielle. Vous n'avez qu'à voir la composition. Et si nous devons parler des sujets à y aborder, mais les sujets fondamentaux qui justifient l'état dans lequel le pays est, mais ils ne sont pas abordés. Alors, il y a le problème de la légitimité qui provient du fait de la faiblesse des institutions qui elles-mêmes sont faibles du fait qu'elles proviennent des élections de 2011 qui ont été mal organisées, tout le monde le sait. Alors, nous devons parler de ces problèmes-là et nous regarder dans les yeux, savoir ce qu'on doit faire après. Qu'est-ce que nous devons faire après? Nous, UNT, nous disons, nous devons nous mettre ensemble pour arrêter un programme de gouvernement, cette fois-ci. Parce que nous sommes censés avoir un programme, mais nous n'y sommes pas. Nous gérons en dehors de ce programme-là. Cette fois-ci, nous attendons sur un programme. Nous ne voulons pas entrer au gouvernement. Nous sommes opposition. Nous restons surveiller l'exécution de ce programme-là. Et ce programme doit contenir, entre autres, l'étape des élections présidentielles avant 2016. Parce que pour nous, le 19 décembre 2016, à minuit, le mandat du président Kabila est terminé. Il faut qu'il passe le témoin à un autre président élu.
Merci. Professeur Bouindo, avant que je ne vous donne la parole, nous allons retourner au Nord Kivu d'où vous venez. Les forces armées de la RDC et le M23 se sont à nouveau accrochés tôt ce matin. L'incident a eu lieu à Kaunga, dans la région de Mabenga, près de 80 km au nord de Goma, dans le territoire de Rutshuru. Deux morts côté M23 et un blessé côté FARDC, selon un bilan dressé par le porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Olivier Amouli parle d'une provocation du M23. Gisèle Kaz pour les détails.
Il s'agit d'un péloton du M23 qui aurait tenté sa progression vers Mabenga, dans l'espace contrôlé par les FARDC. S'en sont suivis des tirs engagés par les forces armées de la RDC, selon le porte-parole militaire Olivier Amouli. Pendant environ 20 minutes, les deux belligérants se sont échangés des tirs à l'arme lourde et légère, d'après nos sources dans la région. Les combattants du M23 ont fini par décrocher vers la cité de Kiwanja, à 10 km du lieu de l'incident, laissant derrière eux deux cadavres, selon toujours les FARDC. D'après le colonel Olivier Amouli, il s'agit d'un acte de provocation de la part de rebelles du M23. Il provient, je cite, « Nous ne tolérerons plus une autre provocation de la part de ce mouvement rebelle », fin de citation. Dans un communiqué du M23 et signé par son président Bertrand Bissimoua, le M23 accuse plutôt une manœuvre des FARDC qui tend à privilégier la guerre au détriment des négociations de Kampala. C'est depuis plusieurs semaines que des voix s'élèvent à Rutshuru pour dénoncer le renforcement des positions du M23 dans la région de Mabenga, non loin de Kaunga. Goma, Gisèle Kaj, Radio Kapi.
Professeur Bouin, Bamba, on est là, visiblement, dans une situation complexe. On est à New York, on est à Kampala, en même temps, on se bat sur terrain, il y a les concertations nationales, ici, etc.
Je pense quand même qu'il y a une certaine cacophonie dans l'action telle qu'elle se déroule, mais c'est surtout que cette action ne se traduit pas par des faits qu'on peut voir et vraiment lire de manière effective. Le gros du problème qui se pose au Nord Kivu, au Sud Kivu aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement faire. Quand on est agressé, on n'a pas deux solutions. On n'a pas à aller à Kampala, on n'a pas à passer sous les fourches caudines, on n'a pas à prendre le chemin de Damas, on n'a pas à aller à Kanosa, comme on dit. On doit tout simplement attaquer l'agresseur le plus loin possible, entre à Kigali s'il le faut, ou même jusqu'à Kampala même, parce que moi je tiens un tout petit peu mon discours de la pensée de Julius Nyerere, qui disait que quand un serpent vous attaque, vous arrivez à le chasser, vous n'allez pas vous arrêter au bord de son trou et dire, écoutez, moi je ne peux pas aller là, il faut le poursuivre jusque dans ses derniers retranchements. Je pense que nous faisons trop de cadeaux à nos agresseurs, et c'est là parce que simplement il y a un péché originel. C'est que les gens de l'AFDL qui avaient pris les armes contre la République demeurent dans une impunité telle que, à la limite, n'importe quel individu peut penser qu'il peut prendre les armes contre la République et rester et être récompensé un jour. Moi, je pense sincèrement que aussi longtemps que nous ne prendrons pas le devant, aussi longtemps que nous ne nous dirons pas, eh ben, il est temps d'en découdre avec n'importe quel pays qui nous agresse, nous allons rester aller des conférences en conférences, de conciliabule en conciliabule, et nous serons vraiment, comme dit l'honorable Bitakwira, de Kikangabaline, c'est-à-dire simplement une sorte de vipère qui n'effraie que les petits cultivateurs, qui ne mord jamais.
Professeur, il y a Gabi de Kisangani en province orientale qui dit, oui, la RDC est en guerre, mais pas avec le Rwanda, pas avec le M23, ni le Rwanda, mais avec la communauté internationale.
La communauté internationale, j'aime bien le rappeler, elle n'existe pas. La communauté internationale n'est que la traduction du rapport de force entre États, et nous n'avons pas à nous en faire avec cette idée-là assez saugrenue que, comme quoi la communauté internationale elle n'existe pas. Moi je ne la connais pas, je ne connais pas ces institutions, ces trucs, c'est de la rumeur, c'est des affabulations. Ce qui peut exister par contre, c'est notre armée, c'est la volonté de ses chefs, de notre gouvernement, de notre parlement, de savoir que quand notre république, quand notre patrie est attaquée, nous devons la défendre. La doctrine de la patrie en danger, nous devons tout simplement mourir pour le Congo, d'autant plus que nous le chantons à tout bout de champ.
Mathieu Bawere, depuis Goma en Nord, qui vous dit la demande du chef de l'État, des sanctionnés des États qui violent leurs engagements est fondée, sauf que c'est la RDC qui devrait faire le premier pas en rompant toutes les activités diplomatiques avec ces États protecteurs.
Je partage à 100% cet avis, parce que tout simplement nous ne devrions plus même avoir de relations avec, comment ça s'appelle, avec la... excusez-moi Alain, moi je travaille beaucoup sur la Tanzanie, et je peux vous assurer que j'ai des rapports sur le traitement que la Tanzanie réserve à des sujets rwandais actuellement, et je peux vous assurer que les Tanzaniens n'y vont pas par le dos de la cuillère.
Mais professeur, n'êtes-vous pas là en train de chercher à isoler la RDC qui est dans un contexte global et mondial? La RDC ne peut pas ne pas tenir compte de la vie de la communauté internationale.
Non, la RDC doit s'appuyer de manière forte sur l'engagement de la Tanzanie, l'autre voisin du Rwanda, et vraiment arriver tout simplement à faire taire ce qui se passe au Rwanda. Moi, je connais très bien le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, je sais de quoi je parle. Mais aussi longtemps que nous allons rester dans de la gesticulation, c'est de négocier, nous n'arriverons nulle part. Autant à la limite, leur laisser entrer au Congo et puis c'est tout. Mais aussi longtemps que nous n'arriverons pas à défendre nos territoires, nos terroirs, nous ne pourrons rien faire. On peut toujours s'élever en train d'aller discuter à Genève ou à Kampala ou à Kigali. Mais je pense que pour la question à l'égard du Rwanda, aussi longtemps qu'ils ne nous respectent pas, nous n'avons aucune raison de les respecter outre mesure, d'autant plus que nous sommes un grand État.
Professeur Chibangu, je signale en même temps qu'il nous reste au moins de 5 minutes pour terminer cette émission. En scrutant votre regard, pendant que le professeur Bouin doit parler, j'ai cru sentir une certaine peur en sentant ce discours.
Oui, là nous allons dans le mur. Pourquoi ? Parce que je constate que le gouvernement de la République, le président de la République, nous avons déjà une belle victoire diplomatique. Nous avons la communauté internationale de notre côté. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps au Conseil de sécurité comment on a cité nommément le Rwanda comme étant responsable du désordre à RDC. Donc nous sommes déjà très loin. On ne peut pas perdre ce succès diplomatique en tenant un discours vent en guerre, un discours de menace contre les Rwandais, etc. On ne peut pas d'un côté condamner les autres parce qu'ils viennent déstabiliser, eh bien, et de l'autre côté, soutenir qu'il faut aller chez eux, aller le combattre chez eux. Non, on peut pas. Le gouvernement ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas conseillé. Nous avons déjà gagné une belle victoire. La communauté internationale est avec nous. La brigade internationale est là, arme à la main, pour nous aider à éradiquer tous les voyous en armes qui créent le désordre. Donc nous sommes déjà une étape supérieure. On ne peut plus revenir sur les choses. Oui, mais il faut qu'on ait une armée, qu'on ait ceci. C'est bien. Le président le dit là. La réforme de l'armée, des services de sécurité, ça se fait. Nous venons d'en parler abondamment aux concertations nationales dans le cadre de la thématique sur la sécurité, la défense, etc. Et donc, c'est un sujet prioritaire, et le président l'a dit d'ailleurs l'année passée au mois de décembre sur l'issue de la fédération en disant désormais la priorité, ce sera la défense du pays. Donc, tout cela est déjà dit, tout cela est en train d'être fait. Ça prendra du temps pour qu'on voit des résultats. Mais je vais terminer en disant
très rapidement, je comprends
que le président de la République a fait un beau discours en ce qui concerne les intérêts de notre pays. Il a stigmatisé les agresseurs et a demandé qu'on prenne des sanctions contre eux plutôt que de rester dans la condamnation de principe. Pour ça, c'est très important.
Honorable Bamporiki, je vous sens plutôt sur le terrain du dialogue national qu'il faudrait recadrer.
Absolument, parce que personne ne nous prendra au sérieux si nous ne nous engageons pas à gérer le pays, à le gérer convenablement, conformément aux normes. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Et puis nous voulons qu'on rentre au dialogue, au vrai dialogue. C'est pour qu'effectivement nous puissions nous dire ces vérités-là, de dire que jusque-là, depuis plus de 10 ans, 12 ans précisément, on a aucun effet palpable sur le vécu quotidien du citoyen, alors que nous sommes dans un pays très riche. Donc, nous voulons nous mettre ensemble, mettre la gestion suivant les normes. Et là, nous disons, ok, nous respectons l'architecture qui est issue des élections de 2011, même si elles étaient catastrophiques, mais voilà, nous traçons les balisages. Voilà, nous allons où ? Nous allons jusqu'en décembre 2016. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons faire ceci, ceci, cela. Nous nous mettons d'accord. Et nous, opposition, nous nous mettons à l'écart pour surveiller si ce qui se fait conformément à ce qu'on s'était entendu. Voilà ce que nous voulons, nous prenons dans la coalition pour le vrai dialogue.
Et en guise de conclusion, par rapport au discours du président de la République, et donc il faut marteler que tout se passe en interne convenablement.
Tout à fait, surtout que quand on parle de concertation, moi je me dis, mais ces concertations, nous cessons de le dire, mais elles violent l'esprit des accords de Addis Abeba, vous le savez très bien.
Merci, professeur Bouin, voyons sur les concertations, parce que l'honorable Bamporiki y a fait allusion.
Je ne suis pas comme le vieux Caton qui disait des lingues à Est Rwanda, mais je pense tout simplement que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et pour cela, aussi longtemps que nous ne voulons pas montrer nos biceps et nos forces, nous allons être à la merci de la duperie, de la ruse des autres.
En commençant par arranger les choses en interne, comme dit l'honorable
Bamporiki. Absolument, en interne et en externe aussi.
Professeur Tshibangu, un mot pour conclure.
Oui, pour conclure, la responsabilité principale incombe à notre pays, à l'autorité, pour assurer la paix et la sécurité dans notre pays. C'est la responsabilité première, mais quand il y a des agresseurs, il faut que la communauté internationale assume cette responsabilité et prenne des sanctions contre eux.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.